Bonjour à tous. Je remercie la librairie Mola pour son invitation et aussi pour l'intérêt porté à la pathologie endométriosique. Je suis le docteur Aurélie Buffeteau. Je suis gynécologue obstétricien et je travaille au CHU de Bordeaux dans le service de chirurgie gynécologique et particulièrement sur la filière endométriose. Donc, je vais vous parler ce soir de l'endométriose. Je vais revenir rapidement sur la pathologie, qu'est-ce que c'est, les traitements actuels qui sont proposés et aussi les nouveautés, les actualités, puisque c'est une maladie qui est finalement de découverte ancienne, mais dont on parle beaucoup plus récemment. Et donc, il y a beaucoup de nouveautés à vous proposer. Donc, l'endométriose, c'est défini comme la présence de tissu de l'endomètre, qui normalement est situé dans la cavité de l'utérus, et qui, là, va se trouver en dehors de la cavité de l'utérus. On dit que c'est une définition histologique, ça veut dire que normalement, pour attester de la pathologie, il faudrait qu'il y ait eu une chirurgie avec prélèvement de lésions en dehors de l'utérus qui sont analysées et qui prouvent que c'est bien du tissu anormal au mauvais endroit. On parle d'endométriose maladie quand elle s'y associe des douleurs et ou de l'infertilité. Uniquement des lésions visibles sur une imagerie n'est pas considéré comme de l'endométriose maladie s'il n'y a pas de symptômes associés. Donc, un petit point d'épidémiologie, c'est une pathologie bénigne, mais qui est très invalidante. Elle touche en moyenne, selon les dernières études, entre 6 et 10% des femmes en âge de procréer, et elle a une incidence de 0,1% par an. Ça veut dire qu'à peu près, il y a à peu près 0,1% de plus de patientes diagnostiquées par an de l'endométriose, et cette population touchée, c'est plutôt les femmes entre 15 et 49 ans. Il y a un fort retentissement de la pathologie sur la qualité de vie, à la fois la qualité de vie sociale, puisque c'est des patientes qui vont être très douloureuses et qui vont avoir des difficultés à réaliser des activités de la vie quotidienne, comme des activités sportives ou bien des sorties entre amis ou en famille. Ça impacte également la qualité de vie sexuelle, on va y revenir, et également ça peut entraîner un absentéisme scolaire et ou professionnel du fait des douleurs occasionnées. Il n'existe malheureusement pas de traitement à l'heure actuelle curatif, c'est-à-dire qu'on ne sait pas guérir de la maladie, mais il existe des traitements symptomatiques qui permettent d'en réduire les symptômes. Ces traitements sont, pour certains, pas dénués d'effets secondaires et je vous les exposerai après. Donc, un petit point de physiopathologie. La physiopathologie, ça veut dire comment survient la maladie. Pourquoi elle survient chez certaines patientes et pas chez d'autres? Donc, la théorie la plus retenue, c'est celle décrite par Sanson en 1927. Vous voyez, c'était il y a presque 100 ans. Et pourtant, c'est depuis environ une dizaine d'années qu'on parle vraiment de cette pathologie. Donc, le mécanisme le plus retenu, c'est que là, dans l'utérus, vous voyez, le petit tissu rose le plus clair, c'est l'endomètre. Donc, c'est ce qui et le tissu qui va ensuite, par exemple, désquamer quand les femmes ont leurs règles, et donc c'est ce qui va couler par le vagin, d'accord, du sang. Chez toutes les femmes, au cours des menstruations, au cours des règles, il y a également un petit peu de ces cellules qui s'échappent par les trompes, et donc on a toutes un peu de sang au niveau du ventre, au moment des règles, de manière normale. Et notre corps va le résorber, et ça va disparaître. Et puis chez certaines patientes, on ne sait pas exactement pourquoi encore, sûrement par différents mécanismes immunitaires, entre autres, et bien ces cellules, au lieu d'être résorbées par le corps, elles vont aller s'implanter ailleurs dans l'abdomen, notamment en arrière de l'utérus, par exemple. Pourquoi plus en arrière de l'utérus? C'est un petit aparté. On est bipède et on est soumis à la gravité. Et donc les lésions, elles vont avoir plutôt tendance à être vers le bas. D'accord ? Donc vers le bas du ventre, surtout en arrière de l'utérus. Il y a 4 formes anatomiques décrites de l'endométriose. Les plus fréquentes, ce sont les lésions superficielles. C'est des petites lésions, comme ce que vous voyez ici, bleutées. Pourquoi c'est bleuté ? Parce qu'en fait, c'est des lésions qui saignent quand on a nos règles. Et donc, ce qui est bleu, c'est du vieux sang, marron bleu. Et elles viennent se fixer sur le petit voile que vous voyez, là, blanc, qui est le péritoine. C'est le tissu, comme du voile, qui surplombe tous les organes à l'intérieur du ventre. D'accord ? Donc ça, ce sont des lésions superficielles. On les considère superficielles quand elles n'envahissent pas plus de 5 mm de profondeur. D'accord ? Ensuite, il y a des nodules plus profonds. Pour vous expliquer un petit peu, ici, c'est une vue chirurgicale où on a l'utérus et en avant la vessie. Et là, on voit qu'il y a beaucoup de rétraction. Vous voyez, du tissu qui est très rétractile. Et ça, ce n'est pas normal. Normalement, c'est très souple à cet endroit-là. Et donc ça, c'est un nodule profond d'endométriose qui est à la jonction entre l'utérus et la vessie. Il y a la troisième forme, c'est la forme ovarienne. Ce sont des kystes dans les ovaires qui sont remplis de cellules d'endomètre et donc qui vont saigner quand on a nos règles et qui donnent des kystes remplis de sang. C'est ce que l'on voit ici. En blanc, là, c'est un ovaire normal. Et en bleu, là, c'est un kyste de l'ovaire qui est rempli de cellules de l'endomètre. On appelle ça un endométriome. C'est un kyste de l'ovaire lié à l'endométriose. D'accord ? Il y a d'autres kystes de l'ovaire qui peuvent être remplis de sang, par exemple, quand on a une ovulation hémorragique. Ça, ce n'est pas de l'endométriose. D'accord ? Pour parler d'endométriose, il y a des caractéristiques sur les imageries. On va le revoir tout à l'heure. Et je vous ai mis une quatrième forme, c'est une cousine. C'est ce qu'on appelle l'adénomyose. L'adénomyose, alors c'est, comme je vous disais, une pathologie qui est voisine de l'endométriose. L'endométriose, je vous ai dit que c'était de l'endomètre, rose ici, qui va en dehors de l'utérus. Dans l'adénomyose, c'est l'endomètre qui va rentrer dans le myomètre, le muscle de l'utérus, ici, vous voyez ? Ça fait des petites cryptes où il y a des cellules de l'endomètre. Ça, c'est plutôt visible chez des femmes plus âgées, plutôt dans la période préménopausique, aux alentours des 40-45 ans. Et c'est plutôt des femmes qui ont eu plusieurs grossesses. On dit multipares, plusieurs grossesses. D'accord ? Les symptômes de l'adénomyose, ça va créer des ménorragies, c'est-à-dire des règles abondantes, et des règles douloureuses, des dysménorrhées. L'utérus aussi va être augmenter de volume en général. Pourquoi ? Parce qu'en fait, il faut voir le muscle là, il est rempli donc de petites cryptes qui contiennent de l'endomètre et qui vont saigner. Donc c'est un peu comme si c'était une éponge qui est gorgée de sang. Vous voyez ? Donc c'est pour ça que c'est un peu gonflé, que c'est augmenté de volume et que ça fait mal quand on a les règles, puisque l'utérus va se contracter pour vider ces petites cryptes. C'est ça les douleurs liées à l'adénomyose. Voilà, c'était la petite parenthèse pour expliquer l'adénomyose qui est une pathologie assez voisine de l'endométriose. Donc pour revenir maintenant uniquement sur l'endométriose, les facteurs prédisposants, on en connaît un certain nombre. Il y a notamment des facteurs familiaux. Il y a eu beaucoup de recherches sur les risques génétiques liés à l'endométriose. Pour l'instant, il n'a pas été retrouvé de gènes qui puissent expliquer l'endométriose. D'accord ? On ne peut pas dire « vous êtes muté d'un tel gène, donc vous avez un risque d'endométriose ». Néanmoins, on sait que quand dans notre famille, il y a quelqu'un qui, au premier degré, a de l'endométriose, c'est-à-dire votre sœur, votre maman ou votre tante, eh bien vous êtes plus à risque d'en avoir également, un risque augmenté fois 5. Et ça peut être lié à plusieurs choses. Je vais y revenir juste après. Il y a également des facteurs individuels. Je vous ai dit, le mécanisme de l'endométriose, c'est l'endomètre qui s'échappe par les trompes et qui, au lieu d'être résorbé, qu'il disparaisse, eh bien, il va aller s'accrocher ailleurs. Et donc, plus on a de règles, plus on a de reflux dans les trompes, et donc plus on a de risques d'avoir des lésions qui vont s'accrocher dans la cavité de l'abdomen. D'accord ? Donc, les facteurs de risque, c'est notamment si on a eu des règles très précocement, parce qu'on aura eu plus de cycles. C'est pareil, si on a des cycles courts, ça veut dire que on va avoir plus d'exposition aux règles. D'accord ? C'est pareil quand on a des cycles qui sont abondants. Plus les cycles sont abondants, plus il y a de cellules de l'endomètre qui refluent par les trompes et donc plus il y a de risques qu'elles s'implantent. D'accord ? L'endométriose, c'est une pathologie hormonodépendante et notamment qui est dépendante des œstrogènes. Et donc on sait que l'hyperœstrogénisme, donc la sécrétion augmentée d'œstrogènes dans le sang, ça peut aussi être un facteur de risque. Et il y a aussi des risques environnementaux. On sait, ça a été prouvé dans une étude, que le sport, c'est un facteur protecteur qui diminue le risque d'endométriose. Et il y a beaucoup d'autres études actuelles sur le sujet de l'environnement et notamment sur le rôle des perturbateurs endocriniens. Et donc, je fais le lien avec les facteurs familiaux parce que effectivement, on sait aussi que dans une famille, on est exposé au même environnement. Donc peut-être qu'il y a une notion de gène que l'on n'a pas encore trouvée, mais très probablement également un rôle de l'environnement qui est le même au sein d'une même famille. D'accord ? Donc l'expression clinique, quels sont les symptômes finalement de l'endométriose ? Le maître mot, c'est les douleurs. Nous, les spécialistes, on dit les 4 D. Pourquoi ? Parce qu'on parle de dysménorrhée. Ça, c'est le symptôme premier. C'est des douleurs pendant les règles, des règles douloureuses. Il peut y avoir également des douleurs en dehors des règles, notamment au moment de l'ovulation. Ça peut s'expliquer notamment sur une atteinte des ovaires. Je vous ai montré les kystes sur les ovaires. Ben, quand on a une ovulation par-dessus, ben, ça peut créer plus de douleurs. Okay ? Il y a le deuxième symptôme qui est assez fréquent, c'est les dyspareunies. Les dyspareunies, c'est des douleurs pendant les rapports sexuels. Il y a deux types de dyspareunies, deux grands types. Les dyspareunies profondes, donc c'est plutôt en profondeur, ou les dyspareunies à la pénétration. On dit que c'est des dyspareunies d'intromission. Dans l'endométriose, ce sont surtout les dyspareunies profondes qui sont retrouvées. Pourquoi ? Parce que les nodules, ils sont en arrière de l'utérus et c'est à cet endroit-là, qu'anatomiquement, il y a des frottements lors des rapports. Donc ça vient solliciter directement le nodule d'endométriose qui est en arrière de l'utérus et c'est ça qui fait mal. Les autres symptômes, ils sont un peu moins fréquents, mais c'est des dyschésies, c'est-à-dire des difficultés à aller à la selle, à bien exonérer les selles, et notamment pendant les règles. Il peut y avoir aussi des diarrhées pendant les règles, alors des diarrhées importantes, parce qu'on a toutes des selles un peu moins moulées les premiers jours des règles. De manière normale, c'est la chute hormonale qui fait ça. Mais les patientes qui ont des lésions d'endométriose, c'est des diarrhées profuses, enfin, assez importantes. Il peut y avoir aussi du sang dans les selles, c'est ce qu'on appelle des rectorragies. Et il peut aussi y avoir des douleurs quand on va uriner. Ça, c'est une dysurie, ça s'appelle. Donc ça peut être en lien soit avec de l'inflammation qui s'est faite dans le ventre et qui donne des douleurs quand on urine, ou alors directement un petit nodule d'endométriose sur la vessie. Il peut aussi y avoir du sang dans les urines, c'est ce qu'on appelle une hématurie. L'endométriose, son autre symptôme, c'est l'infertilité. Attention, toutes les patientes qui ont de l'endométriose ne sont pas infertiles. Vraiment, ça faut dédramatiser. Par contre, on sait que chez la population des patientes qui ont des difficultés à avoir une grossesse, eh ben on retrouve entre 25 et 40% d'entre elles qui sont également sujettes à de l'endométriose. D'accord ? Mais ce n'est pas parce qu'on vous a diagnostiqué d'une endométriose à l'âge de 20 ans que pour l'instant, vous n'avez jamais eu de projet de grossesse de votre vie qu'il faut vous dire « j'aurai jamais d'enfant ». Non, pas du tout. Tant qu'on n'a jamais eu le projet de grossesse, on ne peut pas savoir s'il y aura des soucis d'infertilité. Ça, c'est très important de dédramatiser un petit peu ça, d'accord ? Surtout pour les patientes jeunes qui ont ce diagnostic. La sévérité des symptômes, elle n'est pas du tout corrélée à l'atteinte anatomique. C'est-à-dire qu'il y a certaines patientes qui ont quelques lésions et elles vont avoir d'extrêmes symptômes douloureux. Et d'autres, par contre, elles ont des lésions très étendues et elles ne sont pas particulièrement douloureuses. Ça, c'est une particularité de la pathologie. Donc c'est pour ça que c'est très important de s'appuyer sur des questionnaires à la fois de douleur et des questionnaires de qualité de vie. C'est pour ça qu'on pose beaucoup de questions. L'interrogatoire, donc les questions que l'on pose en consultation, elles sont très importantes dans l'endométriose. Il y a plusieurs mécanismes de la douleur et je trouvais que c'était important d'y revenir. Donc je vais vous expliquer dans les grandes lignes les mécanismes de la douleur dans l'endométriose. Il y a la douleur nociceptive. Ça, c'est la plus facile à comprendre. Je me casse les bras, j'ai mal au bras. J'ai une boule sur le foie, j'ai mal au foie. D'accord ? Ben, on a un nodule d'endométriose sur l'ovaire. On peut avoir des douleurs latéralisées du côté de l'ovaire qui a cette lésion. D'accord ? Les autres mécanismes de la douleur, c'est par exemple des douleurs neuropathiques. Neuropathique, ça veut dire en lien avec des nerfs. Ça va entraîner des douleurs de type de fourmillement, de décharge électrique. D'accord ? Et ça, c'est des lésions qui sont soit au contact des nerfs, donc elles l'inflamment et ça crée ces douleurs, ou bien c'est de l'inflammation locale. La lésion, elle n'est pas sur le nerf, mais elle n'est pas très loin. Et donc, elle inflamme toute la région autour. Et donc, ça, si vous voulez, ça irrite le nerf et ça crée ces douleurs. Le troisième mécanisme de douleur, c'est la sensibilisation centrale. J'ai un petit schéma juste après pour vous expliquer ce que c'est. Et la quatrième douleur possible, c'est des douleurs post-chirurgicales qui peuvent survenir en général 6 mois après l'intervention. C'est également décrit dans les études. Donc, la sensibilisation centrale, qu'est-ce que c'est ? Pour qu'on retienne une sensation de douleur, il faut qu'il y ait un mécanisme douloureux. Et il faut aussi, notre corps, il est fait pour qu'il y ait des mécanismes d'inhibition de la douleur. C'est pour ça que quand on se touche le front, ben on a pas mal. Parce que le mécanisme d'inhibition, il dit ça, c'est pas censé être douloureux. Okay ? Quand on a une information douloureuse, c'est-à-dire que la douleur est plus forte que le mécanisme inhibiteur. D'accord ? Et dans la sensibilisation centrale, la lésion, elle n'est pas forte, mais par contre, l'inhibition, elle ne fonctionne plus. Donc du coup, pour une lésion ou une sensation de douleur qui ne devrait pas l'être, eh ben, elle va le devenir parce qu'on n'a plus le mécanisme qui inhibe la douleur. D'accord ? C'est ça la sensibilisation centrale. Concernant l'infertilité, il y a différents mécanismes qui expliquent pourquoi il peut y avoir une infertilité dans l'endométriose. Le premier, c'est, je vous l'ai dit, les nodules, ben, ils vont saigner au moment des règles. Ce saignement, à un endroit où il ne devrait pas être, ça entraîne une inflammation. Et cette inflammation, ben, c'est peu propice à une grossesse. Il y a également un facteur ovarien. Quand il y a des kystes dans les ovaires, ben, ça donne une ovulation qui va être de moins bonne qualité. Les ovocytes, ils vont être moins matures et moins bons pour pouvoir avoir une grossesse. Ou alors, il va y avoir moins d'ovulation. Il y a également un facteur utérin, c'est-à-dire que si l'utérus il est très inflammatoire, eh bien, il va pas pouvoir retenir une grossesse. Donc ça nécessite une prise en charge globale du couple avec la réalisation d'un bilan, parce que parfois, il y a d'autres mécanismes qui sont en lien avec la fertilité, pas seulement l'endométriose. Donc c'est important d'être pris en charge dans un centre spécialisé et adapté pour un bilan à la fois de la femme, mais également du conjoint. D'accord ? Et ensuite, vous proposez une prise en charge adaptée. Le diagnostic de l'endométriose. Donc, il se fait par l'interrogatoire, en regardant s'il y a des symptômes douloureux, avec tout ce que je viens de vous expliquer. Et également, on s'aide de l'imagerie. L'imagerie première qui est recommandée, c'est une échographie pelvienne, soit au niveau de l'abdomen, soit par voie endovaginale. Elle doit se faire par un échographiste spécialisé qui connaît la pathologie de l'endométriose. Et ça a une très bonne sensibilité. Ça veut dire qu'on est capable de détecter de la maladie avec une très bonne valeur comme examen. Néanmoins, parfois, on est limité par l'échographie s'il y a des lésions de trop petite taille ou bien des lésions en dehors du champ du pelvis. Et donc pour ça, on réalise une IRM pelvienne, c'est l'examen de seconde intention. Ça permet d'avoir une cartographie complètement globale du pelvis, notamment sur les atteintes latérales à côté de l'utérus, ou bien des atteintes digestives plus hautes qui ne peuvent pas être vues par l'échographie. Et c'est un bon bilan préopératoire chez les patientes que l'on va opérer pour voir s'il n'y a pas d'autres lésions ailleurs qu'on n'aurait pas bien vues à l'échographie. Attention, parfois, s'il y a de l'endométriose uniquement superficielle, la petite photo que je vous ai montrée avec c'est un petit patch très, très fin, ben, ça peut ne pas être vu à l'IRM. Donc une IRM normale ne veut pas forcément dire qu'il n'y a pas d'endométriose. D'où l'intérêt, première actualité sur le sujet, du test salivaire. Ça a fait beaucoup l'actualité récemment. C'est un test qui est développé en France et qui fait l'objet d'un forfait innovation par l'État. Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est-à-dire que l'État offre un diagnostic de prise en charge précoce dérogatoire sur ce dispositif innovant. Il permet d'avoir accès à cette technologie avant le remboursement grand public. Il y a 80 établissements en France qui ont été sélectionnés pour pouvoir avoir accès à cette étude. Et le CHU de Bordeaux ainsi que l'IFEM Endo, à Bordeaux également, ont accès à cette étude qui devrait débuter au printemps. Pour l'instant, on n'a pas commencé. C'est pour être inclus. Ce n'est pas toutes les patientes, c'est les patientes douloureuses chez qui on suspecte fortement une endométriose, mais pour lesquelles on n'a pas d'argument ni à l'échographie ni à l'IRM. Donc on est un petit peu dans un cul-de-sac. Et donc on leur propose ce test pour savoir si, oui ou non, elles sont potentiellement atteintes d'endométriose. Ce test, c'est un test salivaire qui va détecter des petits ARN, donc c'est des ARN messagers qui sont en fait produits par les cellules. Et on sait que les patientes qui sont porteuses d'endométriose, eh ben, elles ne sécrètent pas les mêmes ARN messagers que la population générale. C'est comme ça qu'on va les détecter. Le but de cette étude, je vous en parle très brièvement, mais en gros, on pourra inclure toutes les patientes chez qui on suspecte fortement une endométriose, comme je viens de vous dire, mais où il y a une discordance entre notre suspicion et les résultats de l'imagerie. On les inclut dans l'étude. Soit on voulait leur proposer une célioscopie, c'est-à-dire une chirurgie où on met une petite caméra dans le ventre pour voir s'il y a des lésions. Et donc on discute si ce test a changé ou pas notre prise en charge. Est-ce que finalement on va quand même les opérer avec une petite caméra dans le ventre pour voir s'il y a de la lésion ou pas? Et il y a celles à qui on ne voulait pas proposer une chirurgie. Et est-ce que ce test va également changer notre prise en charge? Pour avoir accès à ce test, il faudra être prise en charge. Soit pour Bordeaux, au CHU ou à l'IFEM Endo. Les tests seront donnés uniquement au sein de ces établissements de santé. Et il faudra respecter les critères que je viens de vous exposer pour pouvoir être inclus. Les traitements de l'endométriose. Il y a les traitements hormonaux, c'est des traitements qui sont symptomatiques, donc qui diminuent les symptômes, notamment les symptômes de la douleur, mais qui ne sont pas curatifs. Je vous ai dit, il n'y a pas de traitement qui guérit. Le but de ces traitements, c'est d'arrêter les règles. Ne plus avoir de règles, on dit qu'on est en aménorrhée. Donc c'est le but de ces traitements. Il y en a plusieurs lignes, je vous ai fait la liste, c'est juste à titre indicatif. En premier, pour l'instant, ce qui est recommandé par nos autorités de santé, c'est la pilule œstroprogestative avec des œstrogènes et de la progestérone. En second, le dienogeste. Probablement que ça risque de changer dans les recommandations de cette année. Donc, ça sera l'un ou l'autre en première intention. Ensuite, on peut mettre une pilule avec que de la progestérone en continu ou bien un stérilet hormonal, pas un stérilet au cuivre, parce que le stérilet au cuivre, il donne des règles. Et il donne des règles souvent un peu plus abondantes et souvent un peu plus douloureuses. Donc c'est contre-productif dans cette maladie. Il faut un stérilet avec des hormones. Ou bien l'implant, c'est un implant que l'on met sous le bras, qui délivre également des hormones. C'est tous ces médicaments, le but c'est de ne plus avoir de règles. Les derniers médicaments, ce sont des analogues ou des antagonistes de la GnRH. Leur but en fait c'est aussi de supprimer toute sécrétion hormonale, mais c'est une suppression centrale. Ça veut dire que ça va entraîner comme une ménopause. Donc, c'est très important de mettre en place ce qu'on appelle une add-back thérapie en plus. Parce que si on a bloqué tout, qu'on est comme une ménopause, on n'aura plus de sécrétion, notamment d'œstrogène. Et en revanche, l'œstrogène, ça protège notamment les os et les vaisseaux. Si on ne met pas d'œstrogène, on a des risques d'ostéoporose chez les patients jeunes. Donc, dès qu'on met en place ces traitements, il faut qu'en plus, il y ait un traitement par œstrogène pour diminuer les risques. D'accord ? Ça, les analogues, ça se fait par injection et on rajoute du coup un comprimé d'œstrogène pour éviter le risque d'ostéoporose. Et l'autre médicament, la dernière ligne, je vous l'ai mis parce que c'est une autre actualité, janvier 2025, c'est tout récent. C'est un médicament par voie orale qui vient de sortir il y a 8-10 jours, qui bloque comme une ménopause, mais qui a au sein du comprimé également l'œstrogène. Donc, il va permettre d'éviter les symptômes de la ménopause. Et c'est remboursé dans le cadre de l'endométriose. Okay ? Ça ne reste, donc c'est une actualité, super, c'est un nouveau traitement. Ça ne reste pas le médicament de première intention. En première intention, c'est toujours la pilule œstroprogestative ou le dienogeste, qui est la pilule qui a l'autorisation de commercialisation dans l'endométriose. OK ? L'autre traitement indispensable dans la pathologie endométriosique, c'est les antalgiques, c'est-à-dire tous les médicaments qui vont diminuer les douleurs. Les premiers que l'on prescrit en première intention, c'est du paracétamol, du fluoroglucinol, c'est le nom pharmaceutique du spasfon. Et l'acupant, donc c'est ce qu'on met en premier. Ensuite, on essaye de réserver les anti-inflammatoires et les opioïdes. Les opioïdes, c'est tous les dérivés de la morphine, uniquement au traitement de crise. D'accord ? On évite de prendre au long cours ce genre de traitement parce que ça crée des accoutumances et qu'ensuite, on a du mal à juguler les douleurs. Les autres traitements possibles, ce sont des antidépresseurs et des antiépileptiques. Pas parce que les patientes endométriosiques ont des dépressions ou ont de l'épilepsie, pas du tout, mais parce que ces traitements-là, on sait qu'ils réaugmentent un petit peu le seuil de la douleur. Or, je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait plusieurs mécanismes de la douleur et qu'un des mécanismes, c'était que le seuil de douleur, il était abaissé et donc elles avaient moins d'inhibition des douleurs. Ces traitements-là, ils vont venir remettre des contrôles de la douleur. D'accord ? C'est pour ça que c'est aussi important que les autres traitements dans l'endométriose. Il peut y avoir un traitement chirurgical. Le but de celui-ci, c'est vraiment de réséquer l'ensemble des lésions qui sont visibles dans l'abdomen. Pour qui et quand ? Donc, on le réserve aux patientes qui sont toujours douloureuses et non soulagées malgré plusieurs essais de traitement médicamenteux et avec un traitement qui a été bien conduit. Les patientes, elles ont bien pris leur traitement. L'autre possibilité, c'est chez les patientes infertiles et qui ont de l'endométriose. Et on sait que c'est l'endométriose qui est responsable de leur infertilité. Parce que dans ces cas-là, de les opérer et d'enlever toutes les lésions, ça peut majorer les chances de grossesse spontanée après chirurgie. Donc ça, ça a été prouvé dans les études, et c'est pour ça qu'on réserve la chirurgie plutôt à ces deux cas de figure. Il faut quand même montrer qu'il y a un intérêt au traitement hormonal, même après chirurgie, parce que ça diminue les douleurs et ça diminue aussi le risque de récidive. Il peut y avoir une récidive de la maladie après chirurgie. Les autres thérapeutiques. Dans les nouveautés, bon, maintenant ça fait 5 ou 6 ans que ça existe, je crois peut-être même un peu plus, c'est la sonde IFU. Ça veut dire quoi ? C'est une sonde haute fréquence qui se fait par voie endorectale sous anesthésie. On va mettre une sonde dans le rectum et cette sonde, elle délivre des ultrasons à très haute fréquence et ça va avoir pour but de détruire la lésion au contact. Ça, c'est un très bon traitement en cas d'atteinte digestive isolée, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'autres lésions ailleurs. Parce que s'il y a d'autres lésions ailleurs, on ne pourra pas les traiter de cette manière et donc il faudra opérer. Ben, quand on opère, on fait tout par chirurgie. Sinon. Mais ça peut être un très bon traitement et surtout, ça évite une prise en charge chirurgicale de lésions digestives. L'autre thérapeutique, c'est la cryothérapie. Qu'est-ce que c'est ? C'est quand il y a un nodule d'endométriose, notamment sous la peau. C'est très rare, mais ça existe sur des cicatrices, notamment des cicatrices de césarienne ou des cicatrices de célioscopie, d'ancienne chirurgie. D'accord ? Et ça fait un petit nodule qui est plus douloureux, notamment pendant les règles, ou qui devient un petit peu bleuté et qui gonfle pendant les règles. Et ça, au lieu de s'opérer, alors que si on opère, on va traiter, mais il va y avoir une plus grosse cicatrice, et ben on peut faire un traitement par cryothérapie. C'est des petites aiguilles que l'on met dans le nodule et qui vont venir détruire la lésion par choc thermique. D'accord ? L'autre prise en charge possible, c'est le TENS. Le TENS, c'est une neurostimulation par voie transcutanée. Donc, c'est des petits patchs qui vont délivrer un courant électrique transmis à la peau via un petit boîtier. Le petit boîtier là, ça existe sans fil également, et des petites électrodes que l'on place sur la peau. Ça diminue les douleurs par deux mécanismes. À la fois en atténuant le signal douloureux transmis par les nerfs et également en majorant la production de molécules qui vont nous sentir moins douloureux, les endorphines notamment. Les stratégies physiques également ne sont pas à négliger. Elles fonctionnent dans la prise en charge de l'endométriose, notamment la kinésithérapie avec la rééducation de la posture, l'apprentissage de la respiration, de certains massages ou de drainage. Ça diminue les tensions musculaires au niveau du bassin et de la région pelvienne et ça diminue le stress et l'inflammation. Et on sait qu'il y a un grand rôle de l'inflammation dans cette pathologie. Donc c'est une prise en charge qui a montré des bénéfices. L'acupuncture également a été étudiée peut montrer des bénéfices dans la prise en charge de cette pathologie. Également l'ostéopathie et tout ce qui est prise en charge, hypnose, automéditation, c'est également un grand rôle, ça contribue à améliorer les douleurs en complément de tout ce que je viens de vous exposer juste avant. On parle beaucoup également de l'activité physique adaptée, à la fois dans l'endométriose et dans toutes les pathologies, c'est assez étudié actuellement. L'OMS, donc l'Organisation mondiale de la santé, elle recommande 2 heures et demie d'activité modérée par semaine. Ça permet d'améliorer le bien-être psychologique, mais également la gestion du stress et de l'anxiété, et l'amélioration de l'image de soi, de la confiance en soi et de l'estime de soi. Ça, c'est prouvé. Et donc, ça diminuerait également le risque de développer des symptômes de dépression. Et l'objectif dans la pathologie de l'endométriose, ça serait la réalisation de 3 séances de 30 à 90 minutes par semaine. Ça, ça permet d'améliorer les douleurs et la qualité de vie. Et c'est prouvé par une étude, je vous ai mis toutes les références si vous voulez les voir après. C'est une étude qui a été publiée dans un bon journal en 2023, donc l'année dernière. Le programme Femme, qu'est-ce que c'est ? C'est un programme qui a été mis en place au CHU de Bordeaux. C'est un plan personnalisé d'accompagnement des patientes qui souffrent d'endométriose par mise en place de séances d'hypnose, de méditation, de yoga, pilates et d'activités physiques adaptées. C'est réalisé... Tous les mercredis de 17h30 à 19h et c'est encadré par des spécialistes. Donc, je vous ai mis ici le petit lien pour vous inscrire si vous souhaitez y participer. L'alimentation adaptée, on en parle beaucoup dans l'endométriose puisque, je vous ai dit, c'est une pathologie qui entretient de l'inflammation et donc on parle beaucoup de l'alimentation anti-inflammatoire. Effectivement, il y a un intérêt à réduire, si possible, la caféine, l'alcool, mais également l'alimentation à base de sucre ou d'acides gras saturés et de privilégier les légumes, les fruits, les poissons et les fruits à coque. Néanmoins, pas de dramatisation, il faut avoir une alimentation équilibrée, c'est ça le plus important. Pas de restriction, surtout pas de régime restrictif et intérêt d'une très bonne hydratation. L'éducation thérapeutique, je vous ai expliqué là tout ce que c'était la pathologie et que finalement, il ne suffit pas d'un médicament pour la traiter, mais que c'est plutôt une prise en charge globale. Donc l'éducation thérapeutique, c'est son but, c'est d'informer sur la maladie et de prendre en charge globalement les patientes. Ça se fait en petits groupes, c'est un lieu d'échange entre les professionnels de santé et les patientes et même entre les patientes entre elles. Il y a 3 volets, à la fois un volet d'explication et de prise en charge des douleurs, de la fertilité et explication également de la prise en charge de la chirurgie. Ça, c'est en train d'être mis en place au CHU de Bordeaux et normalement, on devrait commencer les premiers ateliers d'éducation thérapeutique au mois d'avril-mai. Donc, pour finir, je conclue sur cette diapo. L'endométriose, c'est une pathologie bénigne, mais invalidante, qui cause des douleurs multiples et complexes. Il y a l'intérêt de la mise en place d'un traitement médicamenteux, qui sont des traitements hormonaux pour arrêter les règles, et également des traitements antalgiques pour diminuer les douleurs. Il y a également un grand intérêt des stratégies physiques, à la fois par l'électrostimulation, par la kinésithérapie, l'ostéopathie ou toutes les stratégies que je vous ai exposées. Grand intérêt de l'éducation thérapeutique, à la fois pour la prise en charge physique, mais également l'éducation à l'alimentation. Donc, intérêt d'une prise en charge globale, pluridisciplinaire, pas uniquement les médecins, pas uniquement les gynécologues, mais tous les praticiens qui sont en lien avec cette pathologie sont les bienvenus pour traiter et accompagner au mieux ces patientes. Idéalement dans un centre adapté. Et je vous ai exposé les perspectives à venir, donc le test diagnostic salivaire et les thérapeutiques mini-invasives avec la prise en charge avec le moins de cicatrices possibles, le moins de prise en charge chirurgicale possible. Voilà, je suis disponible pour répondre à toutes vos questions si vous le souhaitez. Et voilà, vous avez ici certains membres de notre équipe. Malheureusement, ils n'étaient pas tous disponibles pour la photo, mais je voulais penser à eux ce soir. Merci.